Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous, c'est la Libre Antenne. Dans 30 minutes, vous pourrez commenter l'actualité de votre choix. Vous revenez sur tous les sujets qui vous ont marqué ces derniers jours. Certains d'entre vous d'ailleurs nous appellent de la République démocratique du Congo pour nous interpeller sur la candidature controversée de Ronsard Malonda à la tête de la commission électorale. Vous êtes encore nombreux ce matin à réagir au décès du Premier ministre ivoirien, Amadougon Koulibaly. Nous avons des appels de Cancan. C'est en Guinée où les habitants sont en colère face aux coupures d'électricité. Vous nous interpellez également sur la crise politique au Mali, d'autant que les opposants vont de nouveau manifester tout à l'heure pour réclamer la démission du président Ibeka. Voilà quelques-uns des sujets que nous aborderons dans la Libre Antenne. Certains veulent aussi réagir à la candidature du rappeur Kanye West à l'élection présidentielle aux États-Unis, même si c'est un effet de communication. Vous avez envie d'en parler, on essaiera de vous donner la parole évidemment. Il y a aussi le Burkina Faso et et les députés qui souhaitent reporter d'un an les élections législatives. Mais d'abord, ce sont vos questions à la rédaction de RFI pour mieux comprendre l'actualité. Trésor, bonjour.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Vous êtes à Kinshasa, en RDC. Nous vous écoutons.
Ok, j'ai deux petites questions. Depuis le début de la semaine, deux agents de service secret français à la retraite sont jugés dans un procès à huis clos. Ils sont accusés d'avoir été recrutés par les autorités chinoises et d'être devenus des agents doubles. Alors, deux petites préoccupations. Mm-hmm. Quels sont les faits qui leur sont reprochés et comment ont-ils été démasqués?
Ah, bonne question, effectivement. C'est un procès ultra sensible qui s'est ouvert cette semaine devant la cour d'assises spéciale de Paris. Deux ex-agents secrets français soupçonnés, effectivement, de trahison au profit de la Chine. Alexis Bédu, bonjour.
Bonjour Juan et bonjour à tous.
Journaliste au service France de RFI, Trésor, a précisé que ce procès se tenait à huis clos. Eh oui, dès qu'on parle d'agents secrets, on parle d'informations qui doivent rester forcément secrètes. Un procès donc à huis clos pour empêcher la divulgation d'informations qui pourraient concerner évidemment la défense nationale. Disons-le tout de suite, la justice française n'est pas très bavarde sur ce dossier, sur cette affaire. Concrètement, que reproche-t-on à ces deux anciens de la DGSE ?
Bon, concrètement, on leur reproche d'avoir fourni contre rémunération des informations et des documents au service de renseignement chinois. Donc voilà, ils sont poursuivis, un des chefs d'inculpation, pour livraison d'informations à une puissance étrangère portant atteinte à la nation. En d'autres termes, ils sont jugés pour trahison. Vous l'avez dit, ils comparaissent à huis clos devant une cour d'assises spéciale compétente en matière d'affaires militaires. C'est-à-dire que c'est une cour qui est composée que de magistrats professionnels. C'est un procès extrêmement rare, une affaire de trahison au sein des services secrets qui ne soit pas traitée en interne. Cela n'arrive quasiment jamais.
Ouais, que sait-on des deux accusés ? Qui sont-ils ?
Alors ce sont deux anciens agents à la retraite désormais. Pierre-Marie H, lui, a 68 ans. Il a travaillé au sein du contre-espionnage français. Il s'est fait arrêter à l'aéroport de Zurich. C'était en 2017. Il détenait une grosse somme d'argent en liquide alors qu'il venait de rencontrer un contact sur une île de l'océan Indien. Un contact d'ailleurs qu'il rencontrait assez régulièrement et depuis de nombreuses années. Sa femme est également poursuivie dans cette affaire. Elle aurait joué un rôle dans ce pacte et en aurait largement bénéficié.
Le deuxième s'appelle Henri M,
on n'a pas son nom de famille, oui. Bien entendu. Lui, il a été en poste à Pékin, c'était à la fin des années 90. Il était représentant officiel de la DGSE dans la capitale chinoise et travaillait à l'ambassade de France. Alors, il avait entretenu une liaison avec l'interprète chinoise de l'ambassadeur. Ça n'avait pas du tout plu à l'époque. Il avait été rapatrié d'urgence en France et en toute discrétion. Alors, le début de la trahison aurait sans doute commencé dans ces années-là, 1997 sans doute. Donc voilà, jusqu'à leur arrestation en 2017, vous faites le calcul, ça fait 20 ans de livraison d'informations aux services chinois.
Et comment ont-ils trahi la France, la nation française ?
On n'a pas exactement la teneur des dossiers qu'ils auraient transmis à la Chine. Certains médias avancent des pistes. Ils auraient notamment livré l'architecture des réseaux français en Asie quand ils étaient en fonction. Cette architecture, elle permet de savoir comment la France se sert de ses agents pour installer des réseaux d'influence efficaces. C'est de l'or pour les renseignements chinois. Ce réseau français, il avait notamment abouti à la vente de matériel militaire et sous-marin à la Malaisie en 2002. La Malaisie, un pays à l'époque en froid avec la Chine.
Ouais. Trésor nous demandait comment ont-ils été démasqués ces deux anciens agents secrets.
Beaucoup de voilà, pas beaucoup d'informations dont filtrer à
Trésor,
ce sujet.
On fait au mieux pour vous apporter des éléments de réponse. Hein. Je vous cache pas que cette affaire voilà reste très mystérieuse pour les médias. Mais alors justement, est-ce que vous avez des éléments de réponse?
On a un élément de réponse qui nous est donné par le journal Le Parisien. Ce serait des collègues de la DGSE à Paris qui auraient eu un moment de gros doutes sur ce tandem. Alors ils ont signalé ces doutes, peut-être quelques preuves également à la direction. À l'époque, il s'agissait de Bernard Bajolet, hein, qui lui a fait son travail, c'est-à-dire il a signalé ses faits au parquet de Paris. Entre-temps, les deux hommes, eux, avaient quitté le service.
Ouais, c'est ce qui a mis finalement la puce à l'oreille de leur hiérarchie.
Oui, ça leur a mis la puce à l'oreille. Ils étaient sur écoute hein, et surveillés depuis un certain temps quand ils se sont fait interpeller. Donc, les soupçons ont sans doute été rapidement confirmés dans cette histoire complètement rocambolesque.
Et le verdict sera rendu tout à l'heure, ce vendredi. Ouais. Effectivement.
Verdict rendu ce vendredi, ils encourent jusqu'à 15 ans de prison.
Trésor, a-t-on répondu à vos questions? Oui. Êtes-vous satisfait?
Correct. Merci beaucoup, Juan Gomez, et merci surtout à l'équipe rédactionnaire.
Allez, Alexis Bédu du service
merci,
France.
Merci, Trésor.
Allez, bonne journée à tous les deux. 10h17 à Paris, 33 9 693 693 70. Qui avons-nous? Papy, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue, Papy. Vous nous appelez de Yaoundé. Et vous avez des questions concernant les discussions entre le gouvernement camerounais et les séparatistes anglophones.
Effectivement. Ok, les membres du gouvernement camerounais et les leaders séparatistes anglophones se sont rencontrés récemment, mais le gouvernement camerounais a démenti avoir négocié avec eux. Ma première question est la suivante. Qui sont les membres de l'équipe envoyés par les autorités pour parler aux séparatistes anglophones?
Alors, pour vous répondre avec nous ce matin, Florence Maurice du service Afrique de RFI. Bonjour Florence.
Bonjour.
Alors effectivement, le 2 juillet, une équipe envoyée par les autorités camerounaises a rencontré le leader indépendantiste anglophone Sissiku Julius Ayub Tabé, qui est en détention à Yaoundé. Sait-on qui composait cette délégation envoyée donc par les autorités?
Alors, il ne s'agissait pas de membres du gouvernement camerounais. À la tête de la délégation, côté autorité, il y avait Léopold Maxime Eko-Eko, le patron de la DGRE, les services de renseignement camerounais. Il avait avec lui 8 personnes, des agents de son équipe. C'est vrai que certaines informations avaient fait état de la présence du secrétaire général de la présidence camerounaise, mais selon nos informations, ça n'est pas avéré. Lui avait participé à des discussions l'an dernier dans le cadre d'une médiation suisse, mais cette initiative semble en sommeil.
Voilà donc pour la composition de l'équipe côté autorité. Papy, vous aviez une autre question?
Oui, la deuxième est la suivante. Si ce n'est pour les négociations, quel est l'intérêt pour le gouvernement de leur parler, sachant qu'ils sont déjà emprisonnés?
Oui, c'est vrai, Florence Maurice, le gouvernement dément avoir entamé des négociations avec des leaders séparatistes.
Oui, alors, il démente le terme de négociation, et c'est sans doute vrai qu'il est un peu tôt pour utiliser ce terme. Il s'agirait plutôt de discussions préalables pour tenter de trouver un terrain d'entente sur le cadre d'éventuelles futures négociations. Le chercheur de l'ICG, Richard Moncrief, note d'ailleurs l'ambiguïté de cette position qu'il attribue aux divisions au sein des autorités camerounaises entre ceux qui pensent que la discussion est devenue nécessaire et les partisans de la méthode forte.
Ouais. Papy, pose quand même une question assez pertinente. Pourquoi discuter avec des séparatistes qui sont déjà condamnés et qui sont en prison?
Oui, en effet, Sissi Ayuk Tabe a été condamné à vie en 2019, mais il reste une autorité morale importante. Il a conservé une grande influence sur les unités armées sur le terrain et sur l'opinion des populations. Et puis, il y a également eu des rencontres avec d'autres leaders anglophones qui ne sont pas, eux, en prison. C'est donc un processus plus large, en fait, qui a débuté, selon nos informations, dès le mois de février. Ensuite, le pouvoir camerounais est sous pression. L'opinion des zones anglophones meurtries par ce conflit n'en peut plus, donc des pressions nationales et des pressions internationales aussi. On sait récemment que le représentant de l'ONU pour l'Afrique centrale, Lonsen Ifal, a rencontré le président Biya à ce sujet. Le chercheur Richard Moncrief évoque aussi des pressions françaises. Le regain de violence de part et d'autre qui a été observé, notamment au cours des élections législatives de février, a en quelque sorte contraint les uns et les autres à réaliser que le grand dialogue national d'octobre dernier, présenté alors comme une solution à cette crise, n'avait pas porté ses fruits.
Oui, en tout cas, on a bien compris, Florence Maurice, que nous n'en sommes qu'à des prémices de discussion. Sait-on si ces discussions ont des chances tout de même de ramener la paix dans les zones anglophones ?
Alors bon, difficile à dire, d'abord car les positions des uns et des autres restent très antagonistes. Les leaders séparatistes, je le rappelle, réclament l'indépendance, il n'en est pas question pour le pouvoir. Ensuite, les anglophones sont divisés, donc la difficulté c'est d'arriver à rassembler tout le monde, même si la pression de l'opinion qui s'exerce sur les autorités s'applique également aux séparatistes, car les populations touchées ont besoin de sentir qu'une solution est en train d'être recherchée, et d'ailleurs on peut penser que c'est pour cette raison que Sissi Ayuk Tabe a décidé de rendre publique cette rencontre. Il s'agissait en quelque sorte d'un message d'apaisement à sa base. Enfin, il faut garder en tête qu'aujourd'hui, dans certaines zones anglophones, le combat des indépendantistes a cédé la place à du banditisme, à des groupes armés autonomes, des groupes d'autodéfense aussi. Bref, les graines d'une déstabilisation profonde ont été semées, et même en cas d'accord de cesser le feu, certains redoutent qu'il pourra être difficile de faire cesser d'un coup toutes ces violences sur le terrain.
À suivre donc, Papy, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup, Juan.
Merci à Florence Maurice, du service Afrique de RFI. Bonne journée, Papy, à Yaoundé. Florence Maurice, à bientôt. 10h22 à Paris. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à ces discussions entre le gouvernement camerounais, entre les autorités camerounaises et les séparatistes anglophones, n'hésitez pas, rejoignez-nous ici à Paris. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. On pourra en parler tout à l'heure dans la libre antenne. Mohamed, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les milliers d'auditeurs africains qui nous écoutent.
Et merci à vous de nous écouter, de nous appeler de Moroni, dans l'archipel des Comores. Vous avez des questions, vous, sur la controverse autour des frais d'inscription universitaires en France pour les étudiants étrangers.
Exactement. Le Conseil d'État français, saisi par plusieurs associations, a validé la hausse des frais universitaires pour les étudiants extra-européens. Juan, pourquoi l'État s'obstine à imposer cette hausse alors qu'une majorité d'établissements la dénoncent?
Oui, c'est vrai que de nombreux établissements universitaires en France rejettent cette réforme. Mohamed Amara, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le président de l'université de Pau et pays de l'Adour, président de la commission des relations internationales à la conférence des présidents de l'université. Je plante le décor, Mohamed Amara. Désormais, en cycle de licence, un étudiant extra-communautaire, donc un étudiant non européen, devra payer 2 770 € au lieu de 170 €. Augmentation également en cycle de master. L'étudiant devra payer 3 770 € au lieu de 243 €. On voit bien que les frais d'inscription ont été multipliés par 16. Comment expliquer que le gouvernement tienne à ce point-là à augmenter les frais d'inscription? Comment le gouvernement justifie-t-il cette réforme?
Il la justifie avec deux arguments. Le premier, c'est qu'en augmentant les frais, il permettrait aux universités d'offrir un service supplémentaire aux étudiants qui étaient inscrits. Et puis le deuxième point, ça permet aussi aux universités d'avoir des moyens financiers supplémentaires. Après, il y a un aspect de fond qui est posé par la question des droits d'inscription dans les universités, que le Conseil constitutionnel a rappelé que le principe de la gratuité devait être posé sur la table, et le Conseil d'État a interprété ce que voulait dire la gratuité, la modicité des droits d'inscription. Il y a une question de fond. L'inscription dans une université française est bâtie sur un modèle social qui se répercute sur c'est le même type de modèle social pour la retraite ou pour la sécurité sociale, c'est la solidarité nationale.
Oui, d'ailleurs, le Conseil constitutionnel, puisque vous en parlez, disait en octobre dernier, seuls des frais d'inscription modiques peuvent être imposés. Modiques. Alors, modiques, effectivement, il peut y avoir différentes interprétations par modiques. Mais voilà, c'est important ce terme de modique.
Exactement, exactement. Après, il y a un aspect sur lequel le Conseil constitutionnel n'a pas répondu, ni d'ailleurs le Conseil d'État. C'est un sujet qui est mis de côté pour peut-être plus tard, puisqu'il faut toujours qu'il y ait des débats. C'est est-il légitime l'impôt français serve à former les cadres des pays étrangers à la France. En gros, je prendrai le cas d'un Chinois qui se forme en France. Il est formé avec des frais d'inscription très modiques. Il paye 170 euros, alors qu'il paierait 2000 à 3000 euros dans son pays et autour de 30 000 euros dans un pays anglo-saxon. Est-il normal que cela soit le cas? La question mérite d'être posée. Elle mérite d'être posée aussi sur la zone d'influence de la francophonie, pour lesquels il y a un effort à faire, certainement, et ne pas appliquer les mêmes règles du jeu. Donc, il y a un débat qui est derrière aussi, tout cela. C'est la mondialisation, la francophonie et le modèle économique qui doit permettre aux universités françaises de fonctionner. Il faut bien voir en Europe le nombre de pays qui ont des droits d'inscription modiques. C'est la France, c'est l'Allemagne, quelques pays scandinaves, mais tous les autres, ça tourne autour de 2000, 3000, voire 5000 euros, ou alors carrément du 1000 ou du 30 000 euros comme en Grande-Bretagne. Donc c'est un sujet qui est sur la table.
Effectivement, enfin, qui est sur la table et qui a été tranché il y a quelques jours par le Conseil d'État. Ce que dit le gouvernement en quelques mots pour que nos auditeurs comprennent bien, il y a certainement parmi ceux qui nous écoutent des étudiants qui espéraient venir en France et en se disant bon, les études en France sont bonnes, elles ne sont pas chères, désormais je vais devoir payer beaucoup plus cher si je souhaite m'inscrire en licence, en master et aller même plus loin. Ce que dit le gouvernement, c'est oui, les frais augmentent, mais les étudiants vont pouvoir bénéficier de bourses, d'exonérations, par exemple.
Il ne faut pas se faire d'illusions, il n'y a pas tant que ça de bourses. Oui, il y a des bourses, mais tout le monde n'aura pas des bourses. Donc le sujet, il est posé. Il est là sur la table pour la très grande majorité. Après, c'est un peu plus compliqué. D'abord, la question de l'auditeur, c'est pourquoi le gouvernement s'acharne à faire ce texte alors que les universités ne l'appliquent pas, ne l'ont pas appliqué. Il faut bien voir que les universités sont des institutions publiques et elles appliqueront la loi.
Justement, Mohamed a une question très précise à vous poser, puisque vous êtes président de l'université de Pau et Pays de l'Adour. Mohamed.
Oui. Est-ce que tous les établissements seront obligés d'appliquer cette hausse?
Voilà. Autrement dit, Mohamed Amara, serez-vous obligé désormais d'appliquer cette réforme?
La question ne se pose même pas. Nous sommes des institutions publiques, la loi s'applique. Point.
Mais jusqu'à présent, vous ne l'appliquiez pas, cette réforme.
Oh, si, on
l'appliquait. Ah si, vous-même, vous l'appliquiez. Non, parce qu'il n'y a qu'une...
Attendez. Allez-y. C'est très nuancé. On l'appliquait parce que dans la loi, dans le code de l'éducation, nous avons le droit d'exonérer de droits d'inscription jusqu'à 10% de nos étudiants. Comme les étudiants étrangers extracommunautaires étaient en dessous des 10%, donc nous utilisions cet article en disant, nous appliquons cet article, et par contre, ceci est valable pour une année, deux années, maximum trois années. Lorsqu'on dépasse le seuil des 10%, nous sommes dans l'obligation d'appliquer les droits d'inscription qui ont été promulgués par décret. Donc, qu'on se mette bien d'accord, les universités ne sont pas mises dans la position de ne pas appliquer les droits d'inscription. Les universités se sont appuyées sur un article qui les autorisait à exonérer dans une limite de 10%.
D'accord,
la plupart des universités vont dépasser ces 10% dans un an, en 2021-2022, et elles seront amenées à appliquer. Alors il faudra voir comment, parce qu'elles ont toujours cette marge de 10%. Pour ceux qui dépassent les 10%, comment cela va être appliqué? Mais il ne faut pas se faire d'illusions, nous sommes dans des institutions publiques. La question ne se pose pas d'appliquer la loi ou de ne pas appliquer la loi.
Voilà, vous êtes obligé de l'appliquer. pour dire les choses. Voilà, clairement. Merci Mohamed Amara. Je vous interromps. On arrive à la fin de cette première partie. Je rappelle que vous êtes, au-delà d'être président de l'Université de Pau et Pays de la Dour, vous êtes également président de la Commission des Relations Internationales à la Conférence des Présidents de l'Université. Vous souhaitez d'ailleurs réagir à cette controverse. Eh bien, vous êtes les bienvenus sur notre antenne. 33 9 693 693 70. La libre antenne, ce sera dans 10 minutes, juste après le journal. Mohamed, je ne vous ai pas dit au revoir, donc j'en profite pour vous saluer. Bonne journée à Moroni et merci infiniment de votre fidélité. On se retrouve dans 10 minutes.